ഹൈഡൗട്ട്. Vous écoutez RFI, les 8h30 à Paris, 1h de moins en temps universel. Et tout de suite, c'est le journal de Sébastien Duhamel.
Et à la une ce matin, cette visite en Angola, celle hier du président de RDC, Félix Tshisekedi. Il a rencontré son homologue angolais, João Lourenço, qui s'est mis en retrait en début de semaine de son rôle de médiateur sur la crise dans l'est de la RDC. La scène politique de Centrafrique ensuite, traversée par des tensions à quelques 9 mois de l'élection présidentielle. Les tensions justement à leur paroxysme au Soudan du Sud, le vice-président Riek Machar a été placé hier en résidence surveillée. La guerre au Soudan et l'armée du général Al-Bourhan qui affirme avoir libéré Khartoum des forces de soutien rapide, annonce du général Al-Bourhan depuis le palais présidentiel. Et puis, une lutte toujours vitale pour le continent, la lutte contre la malnutrition mise à mal à l'heure de l'assèchement des financements. Le sujet sera dans les esprits pour le sommet Nutrition for Growth qui s'ouvre aujourd'hui à Paris. Il n'est plus le médiateur officiel de la diplomatie africaine autour de la guerre en RDC, mais le président angolais recevait tout de même une visite express de son homologue congolais. Hier, tête à tête entre João Lourenço et Félix Tshisekedi, les deux hommes ont bien sûr évoqué la situation dans l'Est congolais et la mise en retrait au début de semaine de Luanda dans les pourparlers. Compte rendu de ce déplacement avec Pauline Azidi.
C'est la première rencontre depuis l'annonce du retrait de l'Angola de la médiation. Depuis l'entretien entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame à Doha et depuis l'échec des négociations avec le M23 qui devait commencer à Luanda. Il y avait donc probablement des choses à clarifier, laisse entendre un diplomate ici à Kinshasa. Le président congolais s'est donc rendu à Luanda pour une visite de quelques heures, comme il l'avait déjà fait plusieurs fois ces dernières semaines. L'Angola est un pays ami qui a beaucoup fait pour aider, il fallait à tout prix éviter les incompréhensions, confie-t-on du côté de la présidence congolaise. D'ailleurs, le ministre angolais des Affaires étrangères a expliqué que les deux chefs d'État avaient convenu de maintenir une concertation et des consultations régulières. Kinshasa compte en effet toujours sur le soutien de João Lourenço, allié de poids, surtout que le chef de l'État angolais vient de prendre la tête de l'Union africaine pour une année. Pauline Azidi, Kinshasa, RFI.
En Centrafrique, l'opposition pourra finalement organiser sa manifestation le 4 avril. Prochain. Le gouvernement l'avait interdit mardi, mais le ministre de l'Intérieur l'a finalement autorisé hier sur instruction du président Touadéra. Un nouvel épisode donc d'une passe d'armes dans un contexte préélectoral qui semble se tendre alors qu'il reste 9 mois avant le scrutin présidentiel prévu en fin d'année. Élection pour laquelle les observateurs s'attendent à ce que le président Touadéra brigue un nouveau mandat.
Deux frères de l'ex-premier ministre Dondra arrêtés et poursuivis pour activités subversives et tentatives d'empoisonnement. Un meeting de l'ex-candidat à la présidentielle Anis et Georges Dologuélé empêché. La marche des opposants du BRDC interdite puis autorisée alors que les meetings pro-Touadéra s'enchaînent. Pour les critiques des autorités, cette succession d'événements n'est pas neutre. La sérénité a disparu dans les rangs du pouvoir, estime un des leaders de l'opposition qui se satisfait néanmoins du rétropédalage du ministre de l'Intérieur. De bonnes sources, Bangui serait sous pression de la part de ses partenaires internationaux qui demandent un véritable dialogue politique avant d'accepter de financer les élections. Ceux qui payent très cher pour la stabilité ne peuvent pas tout laisser passer, note Martin Zigele, le porte-parole du BRDC, qui dénonce les manigances d'organisations haineuses contre toute forme d'opposition. La société civile s'inquiète de tensions politiques si loin de l'échéance présidentielle prévue en toute fin d'année et note également des dissensions au sein même du pouvoir. L'influent ministre conseiller Fidel Gwandjika n'a pas hésité à tacler les voyous et les imbéciles à l'origine, selon lui, d'un montage grossier contre la fratrie Dondra et qui ternirait l'image du chef de l'État.
François Mazet, chez notons avant de quitter la Centrafrique, au cours de sa conférence de presse hebdomadaire hier, la porte-parole de la MINUSCA a indiqué que la mission de l'ONU suivrait de près la situation politique. Elle encourage les acteurs à faire preuve de consensus et à mener des discussions constructives en vue de créer un climat apaisé pour aller vers des élections crédibles et inclusives. La MINUSCA affirme également qu'elle étudiera la possibilité de sécuriser la manifestation de l'opposition qui est donc prévue, je le rappelle, le 4 avril. Alors que Djouba s'éveillait hier matin avec le bruit des armes, la journée d'hier au Soudan du Sud a marqué une nouvelle escalade des tensions. À leur sommet hier soir, lorsque le vice-président Riek Machar a été placé en résidence surveillée par les forces de sécurité sud-soudanaises. C'est ce qu'annonce son porte-parole. Et pour l'heure, si les conditions de cette détention et ses conséquences sur l'accord de paix de 2018 restent inconnues, eh bien l'ONU s'en inquiète grandement et appelle au calme. À Djouba, précision de Florence Mietto.
C'est une évolution de la crise politique au Soudan du Sud aussi crainte qu'attendue. Les rumeurs d'une arrestation imminente de Riek Machar allaient bon train depuis début mars, lorsque la crise dans la région du Haut-Nil, au nord-est du pays, avait conduit à l'arrestation de plusieurs officiels de son parti à Djouba. Le placement du leader d'opposition en résidence surveillée fait planer un doute très important sur le processus de paix sud-soudanais. Cette détention constitue une violation de l'accord de paix, selon Pal Maïdeng, porte-parole du parti de Riek Machar. Il appelle la communauté internationale à s'assurer de la sécurité physique de Riek Machar. Nicolas Haysom, le chef de la mission de l'ONU au Soudan du Sud, a réagi dans un communiqué. Les amendements unilatéraux à l'accord de paix risquent de ramener le pays à un état de guerre. Cela ne va pas seulement dévaster le Soudan du Sud, mais la région tout entière. Fin de citation. La crise politique actuelle s'est envenimée lorsqu'une milice Nuer, réputée proche de Riek Machar, a pris une base de l'armée sud-soudanaise à Nassir début mars, puis tué son commandant ainsi qu'un pilote de l'ONU. Florence Mietto, Djouba, RFI.
Dans le Soudan voisin, après des semaines de combats acharnés autour et dans la capitale, l'armée affirme que Khartoum est désormais libérée des forces de soutien rapide du général Hemeti. Annonce du général Al-Bourhan hier depuis le palais présidentiel après que ses hommes se sont emparés, selon lui, de l'aéroport international. Une nouvelle avancée pour l'armée soudanaise à la portée symbolique toute particulière. Elle serait ici le fruit d'une offensive acharnée menée depuis 6 mois. C'est l'analyse de Clément Dessé, anthropologue à l'IRD. Je vous propose de l'écouter.
L'offensive de l'armée, en fait, elle commence dès septembre dernier. Il s'agit des offensives de la fin de saison des pluies. L'année passée, c'était les RSF qui avaient été à l'offensive et qui avaient gagné beaucoup de terrain. Et dans un premier temps, l'armée avait été capable de récupérer une partie du terrain perdu l'année précédente face aux forces de soutien rapide. Et depuis la mi-janvier notamment, il y a une pression qui s'est accrue sur Khartoum avec cette volonté d'encercler les RSF. Donc d'abord, ils ont commencé par attaquer par Khartoum Nord. Ensuite, ils sont remontés de la Jezira pour progressivement encercler les RSF. Et ces derniers jours, le temps s'est un petit peu accéléré puisque l'armée avait réussi à reconquérir le centre-ville de Khartoum qui était tenu depuis le début du conflit par les forces de soutien rapide. Et ce qui se déroule aujourd'hui a l'air d'être une fuite complète des RSF de la ville de Khartoum. J'utilise le conditionnel parce que on est encore aux premières nouvelles de cet événement.
L'analyse du chercheur Clément Dessé, anthropologue à l'IRD. Les tensions qui ont à nouveau émergé dans la région éthiopienne du Tigré à présent, des tensions prises très au sérieux par le pouvoir fédéral d'Addis Abeba. Le premier ministre Abiy Ahmed a en effet annoncé hier qu'il allait nommer un nouveau président intérimaire pour l'administration de cette région. La raison, ce sont des divisions internes au sein du TPLF qui est au pouvoir sur place officiellement depuis l'accord de paix ayant mis fin à la guerre au Tigré en 2022. Un appel à candidature est donc lancé pour un président intérimaire, sans calendrier précis cependant pour le moment. Un nouvel ambassadeur américain en Afrique du Sud, sur fond de tensions entre Pretoria et Washington, nommé hier par Donald Trump, annoncé sur son réseau social. Il s'appelle Brent Bozell, fondateur du Media Research Center, un observatoire américain critique des médias. Il est par ailleurs un fervent soutien d'Israël, quand on sait que Pretoria a saisi la Cour international de justice pour dénoncer ce qui se passe à Gaza. Nomination en tout cas de cet ambassadeur américain qui doit encore être approuvé par le Sénat américain et validé par Pretoria, à en croire le New York Times. Dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es. Un enjeu vital s'il en est, la nutrition, au cœur d'un sommet qui s'ouvre aujourd'hui à Paris. Le sommet Nutrition for Growth qui affiche l'objectif de mobiliser les États dans la lutte contre la malnutrition. Le sujet, oui, est éminemment important pour le continent africain, mais dans un contexte international de repli sur soi, dans un contexte de recul de financement, les acteurs humanitaires, les acteurs de terrain redoutent des lendemains difficiles. Reportage signé Christina Okello.
Sachets d'aliments thérapeutiques, compléments vitaminés pour femmes enceintes, Dans les allées du village de Solutions à Paris, un constat s'impose. Face à la malnutrition, les réponses existent. Baptiste Chapuis de l'UNICEF France.
Du moment où la femme est enceinte et allaitante jusqu'aux 2 ans de l'enfant, c'est cette fenêtre-là sur laquelle il faut agir parce que ça va être le moment où l'enfant va développer ses capacités cérébrales et cognitives et qui vont être déterminantes pour la totalité de sa vie.
La malnutrition touche avant tout les enfants de moins de 5 ans, notamment en Afrique. Pour le ministre délégué à la francophonie, Tani Mohamed Soleihi, il y a urgence.
Vous le savez, en matière de nutrition, 1 euro engagé, c'est 23 euros d'enrichissement espéré. Et il faut vraiment faire en sorte que le maximum d'engagement puisse être pris à l'issue de ce sommet.
Et vous espérez combien au niveau des engagements des États ?
Le maximum.
Un appel repris par la société civile, Joseph Gozi du Malawi dénonce un manque criant de moyens.
Moins de 1% du budget annuel est actuellement consacré à la nutrition, alors que notre gouvernement s'est engagé d'y allouer au moins 5%.
Mais le contexte international jette un froid. Les financements américains s'arrêtent, les budgets se resserrent. À Tokyo, 27 milliards de dollars avaient été mobilisés. Cette année, l'ambition risque d'être à la peine. La société civile, elle, attend des actes et vite.
Christina Okello pour ce sommet Nutrition for Growth qui s'ouvre aujourd'hui à Paris. Il risque 10 ans de prison. En Algérie, c'est en tout cas la réquisition du procureur contre Boualem Sansal qui devrait normalement être fixée sur son sort aujourd'hui. Le verdict est en effet attendu dans ce dossier qui a mis le feu aux poudres entre Alger et Paris. L'écrivain franco-algérien, je vous le rappelle, qui est accusé notamment d'atteinte à l'intégrité du territoire algérien. Et puis l'actualité judiciaire en Guinée avec l'ouverture hier du procès en appel de l'opposant Alioubah qui a été condamné en janvier à 2 ans de prison pour offense et diffamation à l'encontre du président. Notre matinale continue maintenant, bien sûr, avec André-Anne Mellard.